Donc Ruth chapitre 3. La semaine dernière, c'était Patrick Saporito qui nous a parlé du livre de Ruth. Alors on va continuer. Alors qui est-ce qui connaît des difficultés dans la vie? Qui est-ce qui connaît des fins de mois difficiles? Qui est-ce qui fait face au racisme ou à être vu comme un étranger? Qui est-ce qui souffre de la solitude? Je vais lever le masque, peut-être sera mieux. Qui a besoin d'espérance dans les temps sombres que nous traversons avec cette épidémie et puis tout le reste qui était là avant, déjà? Qui aime les histoires qui finissent bien? Hein? Ça fait du bien. Le livre de Ruth est là pour nous aujourd'hui. Alors, un résumé des épisodes précédents. Notre feuilleton se passe il y a 3000 ans à Bethléem, la même ville où est né Jésus, mais 1000 ans auparavant. C'est un village de campagne qui vit au rythme des saisons agricoles. On dirait aujourd'hui que l'action se situe en territoire rural. Et nous sommes au temps des juges à ce moment-là, dans la période de l'histoire de la nation d'Israël. Et c'est une période très sombre. Si vous avez déjà lu le livre des juges qui précède juste le livre des Ruth, vous vous en êtes aperçu. Il y a un refrain qui revient dans ce livre. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et notre histoire, la semaine dernière, a très mal commencé. Quels sont les personnages principaux? Il y a Naomi, qui est une veuve âgée et qui a perdu son époux et ses deux fils lors d'un séjour au pays de Moab. Et le pays de Moab lui-même fait trembler un petit peu les Israélites. C'est un pays qui a été toujours agi méchamment envers Israël. Le deuxième personnage est Ruth, la Moabite. Ruth aussi est veuve. C'est la belle-fille de Naomi. Elle aime beaucoup Naomi. Et elle est revenue avec elle du pays de Moab, en Israël. Et puis le troisième personnage dont nous avons fait la connaissance, c'était l'après-midi, c'est Boaz, un homme d'âge mûr, de la même famille. C'est un notable de Bethléem, un homme riche et visiblement toujours célibataire. Alors le premier épisode, nous aurions pu le nommer, je ne sais pas si Patrick l'a appelé ainsi, mais la conversion de Ruth. La conversion de Ruth. Après le décès de ses fils à Moab, Naomi décide de revenir en Israël et retrouver son village de Bethléem. Les épreuves l'ont rendue aigrie contre l'Éternel, au point de décourager ses belles filles qui voulaient l'accompagner. Mais Ruth est déterminée à accompagner sa belle-mère. Et là, si vous avez le livre de Ruth ouvert, quelqu'un peut lire au chapitre 1, le verset 16 du livre de Ruth. Qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là, Ruth? C'est le verset clé de ce premier épisode. Est-ce que quelqu'un l'a sous les yeux?
Ruth répondit, « Je ne presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »
Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est une belle image de ce qu'est la conversion aujourd'hui. Et Morel nous l'a rappelé dans la méditation, un changement de direction, une rupture, une décision de se tourner vers Dieu. Et puis l'épisode 2, Ruth découvre le Dieu de Naomi. Elle arrive au pays d'Israël et là, elle découvre le Dieu de Naomi. On avait vu ça l'après-midi. Les conditions de vie des veuves étaient précaires dans ce temps-là, partout, dans l'Antiquité. Mais heureusement, en Israël, la loi de Dieu imposait de laisser les bords des champs pour les pauvres, et le glanage aussi leur était réservé. Et en allant glaner les champs, pour survivre, pour qu'elle et Naomi puissent survivre, Ruth découvre la providence de Dieu, la façon dont Dieu intervient. Et en effet, elle a été déglanée dans le champ de Boaz. Elle découvre également la protection de Dieu. Boaz va mettre tout en œuvre pour qu'elle ne soit pas dérangée. Vous savez, on parle aujourd'hui des problèmes sexistes, tout ça. Et ça existe depuis fort longtemps, ces choses-là. Et Ruth, qui n'avait personne d'autre que Naomi, avait besoin d'être protégée à ce moment-là. Elle découvre également la provision de Dieu. Boaz va se montrer très généreux. Et voilà qu'elle va pouvoir glaner et accumuler de grandes quantités de blé pour assurer son avenir et celui de Naomi aussi. Un Dieu de providence, un Dieu de protection, un Dieu de provision. Boaz également est une image, on avait vu ça, Patrick nous avait dit, c'est une image du grand rédempteur qui allait venir, Jésus-Christ, à travers ses traits de caractère. Nous, on regarde cela comme étant en arrière, mais les Israélites voulaient voir cela comme étant en avant. Chercher qui allait être ce rédempteur. Et à travers Boaz, on a des pistes de ce qu'allait être Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant à l'épisode 3. Je l'ai appelé ainsi. Ruth découvre la vie de disciple du Seigneur. Elle va continuer de découvrir des choses, non seulement qui est Dieu, mais la façon dont on devient un disciple. Alors, on va lire maintenant le chapitre 3, les 5 premiers versets. Ruth, chapitre 3. Naomi, la belle-mère de Ruth, dit à Ruth, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. » Première scène, Naomi veut rendre Ruth heureuse. Naomi veut rendre Ruth heureuse. Elle prend conscience de la situation de Ruth et d'elle-même. Tout allait bien pour Naomi pourtant à ce moment-là. On peut dire que le placard à provisions était plein pour de longs mois. Et puis elle n'était pas seule. Ruth était là. Et Dieu avait merveilleusement pourvu à leurs bons besoins. Alors pourquoi ne pas en rester là? Pourquoi ne pas chercher autre chose? Et peut-être que tout va bien aussi dans nos vies ce matin. Certes, ce n'est pas l'idéal. Mais quand on regarde autour de soi, notre condition n'est pas si mal. Il y a des sujets de satisfaction. Mais, dans ce point de notre texte, il est clair que Naomi réalise que Ruth est une femme de valeur. Que Ruth est une femme de valeur. Son aveuglement a disparu. Quand elle était revenue de Moab, elle avait dit « Ne m'appelez plus Naomi, qui signifie douce. Appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Elle avait complètement occulté qu'elle était revenue avec Ruth, qui l'aimait. Elle était revenue avec une personne qui l'aimait. Mais là, Naomi a pris conscience de cela. Il faut que je fasse du bien à Ruth maintenant. Nous aussi, on est souvent centré sur notre nombril, on regarde nos problèmes, nos besoins, et puis on peut passer à côté de l'essentiel. On peut passer à côté des gens, de réaliser qu'il y a des personnes dans notre famille, dans notre entourage qui nous aiment. On a un enfant qui nous aime. On a un papa et une maman qui nous aiment tant. Et le plus grand de tous, bien sûr, c'est de réaliser combien Dieu nous aime. Réaliser que l'on est aimé, c'est le plus grand des moteurs de changement. Naomi veut que le bonheur de Ruth passe avant le sien. On avait vu qu'il était question de rachat. Il a le droit de rachat, Boaz, sur Noé. Quand Naomi disait ça, ça levait vers elle une lueur d'espoir. Mais quand il s'agit de passer aux choses concrètes, demander le rachat, c'est certes avoir l'argent du terrain, mais pour eux, pour elle aussi, cela signifie perdre Ruth. Cela signifie pour Ruth un mariage avec celui qui allait racheter. Et donc Ruth, elle serait séparée de Ruth qui prenait soin d'elle. Mais la loi de Dieu était là. Dans ce qui concerne le rachat, il était impossible de passer autrement. Pour racheter le champ, elle se faisait racheter le champ, elle avait l'argent, mais elle perdait Ruth. Et puis non plus, elle n'avait plus tout à fait ce champ. Jésus-Christ est aussi notre rédempteur. Accepter que Jésus-Christ nous rachète, c'est accepter de perdre quelque chose. Jésus l'a dit clairement. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, 35. Naomi n'avait finalement aucun pouvoir sur sa belle-fille. Et puis sur le terrain qu'elle avait était en friche. C'est un terrain qui aurait pu pourvoir à leurs besoins, mais il n'y avait pas d'homme pour le cultiver, donc il n'y avait aucun revenu à en tirer. Alors pourquoi le garder ? Ruth n'avait aucun avenir auprès de Naomi. Sa vie était devant elle. Et la solution pour Naomi était d'obéir à la loi de Dieu qui avait prévu le rachat. Et nous aussi, on peut vouloir garder le contrôle de certaines choses. Et on les empêche de s'épanouir, en fait. Et la solution pour nous est d'obéir à l'Évangile et d'accepter que Jésus nous rachète. Il nous rachète de quoi ? Il nous rachète de notre vaine manière de vivre, selon l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 18. Alors, Naomi décide d'agir. On pourrait dire ici, elle va forcer le destin, elle a tout un plan qu'elle a proposé à Ruth pour que les choses se mettent en place et que Boaz demande le rachat de Ruth. En tout cas, on peut dire qu'elle n'en est pas restée au stade des intentions. Mais elle, à cette façon de faire, elle, quelque sorte, elle rend sa liberté à Ruth. Ok, je suis d'accord pour que Ruth se marie. Elle lui donne le meilleur possible pour arriver à cela en donnant des conseils qu'elle connaît, qu'elle peut puiser dans toute sa sagesse pour que la loi du rachat, la loi de Dieu puisse se mettre en place. C'est là aussi une leçon pour nous. Alors, les Américains, ils ont une expression, vous savez, « just do it ». Si tu sais que tu as quelque chose à faire, fais-le. Si tu sais que quelque chose est bien, fais-le, vas-y, accomplis-le. Nous, on a tendance des fois à en rester au stade des bonnes intentions qui ne se concrétisent pas. Alors, maintenant, à la fin de cette scène, la balle est dans le camp de Ruth. Et maintenant, qu'est-ce que va faire Ruth? Qu'est-ce que va faire Ruth? Alors, il faut lire la suite du texte pour le savoir. Alors, lecture de chapitre 3, versets 6 à 9. Alors, verset 6, Ruth descendit à l'aire, là où on bat le blé, et dit à tous ceux, et fit tout ce que lui avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'une tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur et il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Jusque-là. Jusque-là, Ruth accepte d'être rachetée. Elle accepte de se donner à un homme âgé. Pourtant, tout n'allait pas si mal pour Ruth. Elle avait beaucoup de succès dans son travail, elle avait ramassé beaucoup de blé dans son travail de glanage. Elle avait aussi une excellente réputation. Tout le monde parlait bien d'elle. C'est des choses importantes. Et c'est peut-être le cas de certains d'entre nous. Mais Ruth fait confiance à sa belle-mère Naomi dans son plan pour chercher le rachat de Boaz. Le rachat signifie le mariage avec Boaz. Un homme qu'elle n'a pas choisi. Le mariage signifie, comme tous les mariages, la perte de sa liberté individuelle. Partager sa vie avec un homme qui de plus n'est pas tout jeune, ça veut dire aussi, quand on se projette dans l'avenir, ben, il faudra s'occuper de lui quand il va devenir vieux. Mais Ruth est d'accord avec le rachat. N'est-ce pas ce que la loi de Dieu a prévu dans sa situation ? Si. Ruth accepte d'être rachetée et Ruth prend l'initiative. Alors on retrouve un petit peu la Ruth du chapitre 1, Naomi voulait la renvoyer dans son pays, mais elle a été plus têtue que Naomi. Elle a dit non, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu et rien ne me séparera de toi si ce n'est l'amour. Alors Ruth ici, elle prend l'initiative. Naomi lui avait dit, il te dira ce que tu dois faire. Voilà, tu fais que te coucher. Et elle prend la parole. Elle prend la parole ici. Et ce n'est plus Ruth, la Moabite, qui parle. Vous avez vu dans ce chapitre, le mot Moabite, il n'existe plus. C'est Ruth, la femme. C'est Ruth, la femme qui va parler. « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ruth est authentique dans sa démarche. C'est elle-même qui parle. Il n'est plus question de Ruth la Moabite. Il n'est question que de Ruth, la femme, et puis elle... C'est elle qui parle, c'est plus Naomi. Alors, acceptons-nous d'être rachetés par Jésus-Christ, le Rédempteur. Acceptons-nous de perdre notre liberté, de pouvoir agir à notre guise. Acceptons-nous de mettre fin à la situation malheureuse du livre des juges. Chacun faisait ce qui lui semble bon pour avoir un roi sur nous, un roi qui s'appelle Jésus-Christ, le Rédempteur, celui qui rachète. Alors, on a ici Ruth qui dépose toute sa vie aux pieds de Boaz. Elle est là, elle s'est couchée comme un servant, un serviteur, une servante se couche aux pieds de son maître, de son propriétaire. Ruth a déposé toute sa vie aux pieds de Boaz. Et Boaz, maintenant, que va-t-il répondre? Et c'est la scène suivante de notre texte. Boaz dit: sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire la porte, c'était là où étaient tous les discours officiels, toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse, une femme de valeur. Il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi, passe ici la nuit et demain, s'il veut user du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user contre toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Alors Boaz va assumer sa responsabilité familiale ici. Boaz sort de sa zone de confort. Pourquoi il était dans une zone de confort? Il fait nuit noire. Boaz va flasher et va être ébloui tout à coup par Ruth. Et sa vie va basculer à ce moment-là, suite aux paroles qu'il entend. Et pourtant, tout allait bien pour lui. Il était heureux. Il venait de manger, il venait de boire, et il ronflait tranquillement au milieu des gerbes de blé. Peinard. On imagine Boaz comme un célibataire endurci. Vous savez, il y a des hommes comme ça, ils sont célibataires, c'est des choix. Il était riche, il aurait pu facilement trouver une épouse, mais il est resté célibataire. Sans doute trouvait-il la satisfaction dans la gestion de ses affaires, faire prospérer les biens qu'il avait. Ça donne beaucoup de satisfaction. Et Boaz, l'homme, réalise souvent qu'il a devant lui une femme de valeur qui le sollicite selon la loi de Dieu. Une femme de valeur le sollicite selon la loi de Dieu. Et là, il est en tournant dans sa vie. Morel a parlé dans son traduction qu'on était dans des fourches à des moments donnés. Et là, il a une fourche. Soit il dit oui, soit il dit non. Ce n'est pas un moment public, c'est un moment secret où il n'y a que trois personnes. Il y a Ruth, il y a Boaz et il y a Dieu qui vit et qui observe toutes les situations. Alors, toutes les portes se sont ouvertes. On pourrait dire, est-ce que Boaz avait une autre choix? Boaz s'engage. Boaz s'engage. Rien ne s'oppose à ce qu'il rachète, selon ce qu'a prévu la loi de Dieu dans sa situation familiale. Messieurs, savons-nous nous engager dans nos responsabilités selon la volonté de Dieu? Savons-nous mouiller la chemise? Savons-nous aller au front? Boaz est sorti de sa zone de confort. Il est prêt à être le chef de la famille et il est prêt à sortir son chéquier pour cela. Mais Dieu doit avoir le dernier mot. Car nous l'avons vu, il y a une personne qui est prioritaire sur Boaz pour le rachat. Et nous arrivons à la dernière scène. Les derniers versets de notre chapitre. Verset 14. Reste couché jusqu'au matin. Et c'est ce que Ruth va faire. Ruth resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta. Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tient et elle mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis, il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, Naomi. Et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, sois tranquille. Jusqu'à ce que tu chasses comment la chose va finir. Car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui même. Alors, êtes-vous frustré des fois de ne pas tout maîtriser dans votre vie? On ne maîtrise pas tout. Et c'est une bonne chose que Dieu ait son mot à dire. Du temps de Ruth, Dieu ne conduisait plus son peuple avec une colonne de fumée pendant le jour et une lueur pendant la nuit, une colonne de feu pendant la nuit. Non, il conduisait son peuple, on le voit à travers les circonstances qu'il traversait. Il y avait des circonstances d'ennemis, quand il s'était éloigné de lui, il envoyait des ennemis pour les châtier. Ou ici, il avait aménagé des circonstances heureuses quand il voulait les bénir. Alors, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Naomi, Ruth et Boaz ont fait leur part. Ils ont agi selon ce qu'ils ont compris de la volonté de Dieu. Ils ont été aux limites de ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, il s'agissait d'attendre dans la paix. Surtout pour Noémie et pour Ruth. Que restait-il à faire? Dormir tranquillement. Boaz tient à donner un acompte de sa bonne foi, de son engagement, en chargeant Ruth d'un lourd fardeau. Ça fait, je crois, 25 kilos ou 25 litres d'orge, là. Un lourd fardeau pour Naomi. Un cadeau. Naomi, Ruth et Boaz ont fait leur part. Je soulignerai également une foi discrète. Boaz a tenu, vous avez vu, que sa rencontre avec Ruth soit tenue secrète. Mais pourquoi? Ce moment n'appartenait qu'à eux seuls. C'est le genre de situation qu'ont vécu ici Ruth et Boaz. Ce sont les genres de souvenirs que les couples aiment se rappeler plus tard. Tu te rappelles quand tu étais venu, que je dormais, que tu t'étais couché à moi. Tu te rappelles. Et ça n'appartenait qu'à eux. Ça ne devait pas être publié sur la place publique. C'est une première raison, je pense. La démarche de Ruth aurait pu être vraiment très mal interprété si quelqu'un l'avait su. Et la réputation de Ruth aurait pu être ternie, à tort. Et enfin, et je pense que c'est le point le plus principal, il n'était pas du tout certain que l'affaire puisse se réaliser. Il y avait une personne qui avait droit de rachat avant Boaz, selon la loi de Dieu. Moi, ceci cette foi discrète m'a beaucoup parlé. Dans nos églises évangéliques, alors il est de bon ton que l'on mette en avant sa foi, parce que la foi est importante pour nous. On comprend ça en lisant la parole de Dieu. Mais voilà, si on peut montrer qu'on a la foi, eh bien, on a tendance à le faire. On peut même laisser s'installer dans l'église une sorte de rivalité. Qui c'est qui va avoir la plus grande foi? Et on ne parle pas de sa foi comme ça dans les situations, mais on dit « Ah, est-ce que vous pouvez prier pour telle situation ? Parce que voilà, j'ai fait une démarche par la foi de ça, de ça. » Mais bon, après, il ne faut pas être étonné si on voit germer dans l'église comme ça de la frustration ou de l'orgueil ou des sortes de rivalités. On est loin de la foi calme et discrète de Naomi, de Ruth et de Boaz. Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Boaz fera tout son possible pour mener l'affaire à bien, de toute façon. Ce qui devait être fait a été fait, et il convient de se confier à Dieu et accepter sa réponse qui sera oui ou qui sera non. Proverbe 19:21 dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Qu'est-ce que nous a appris le Seigneur ? Qu'est-ce que nous a appris le Seigneur ? Dans le sermon sur la montagne, chapitre 6, verset 1. Vous connaissez bien ce passage, mais il commence ainsi. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors, c'est la suite pour nos prochains épisodes. Le titre sera « Ruth entre dans le dessein de Dieu pour l'humanité ». Rien de moins. Il va y avoir un quatrième personnage qui va arriver en scène, c'est Monsieur Untel. On fera la connaissance de lui cet après-midi, ceux qui peuvent rester avec nous. Pour conclure, j'ai appelé cet épisode « Ruth découvre la vie de disciple ». Ça peut vous sembler curieux, mais nous avons appris beaucoup de choses ce matin. Veillez à ne pas nous endormir spirituellement quand tout va bien. Quand tout va bien, veillez à ne pas nous laisser aller comme ça, que les choses ne changent pas. La motivation de nos actions doit être l'amour. Tous sont motivés par l'amour ici. Naomi veut que Ruth soit heureuse. Ruth, elle veut que sa belle-mère Naomi soit couvert, que ses besoins soient comblés, qu'elle rentre dans une famille, qu'elle puisse être rachetée avec son champ. Et Boaz, lui, comprend qu'il doit prendre la responsabilité de la famille et il veut le bien de sa famille. Il y a des choses qui doivent être faites. La motivation de nos actions doit être l'amour. Agir en fonction de ce que l'on comprend de la volonté de Dieu, et ça c'est fondamental. Ils ont tous agi en fonction de ce qu'ils ont compris, et tout pivote autour de cette loi de rachat et de Lévira là, qui sont entremêlées ici. Tout pivote autour de la parole de Dieu là pour eux. Agir en fonction de ce que l'on comprend de la volonté. Agir, agir. Il y a des renoncements et des pertes qui seront nécessaires. pour que Dieu puisse déposer dans nos mains les bénédictions, ce qu'il a prévu de meilleur pour nous. Ben, d'abord, il faut qu'on lâche ce qu'on a déjà dans la main, nous autres. Hein. Et il faut d'abord lâcher ce qui se trouve dans nos mains pour que Dieu puisse les remplir avec ce qu'il a prévu et qui est le meilleur. Mais on ne sait pas le mesurer, le meilleur. Et enfin, cinquième point, laissons le dernier mot à Dieu. Laissons le dernier mot à Dieu. Ne cherchons pas à aller. Non, Dieu doit avoir le dernier mot. C'est lui, le maître. C'est le Seigneur, si on est chrétien, qui nous a rachetés. Alors, on va prier. On peut avoir aussi un moment de prière et laisser passer quelques minutes, peut-être pour laisser un peu de temps aux enfants. Et puis après, on aura le moment des annonces.